Slate Podcast.
Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, je suis Christophe Caron et chaque semaine nous revenons sur l'actualité politique française ou internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Ces derniers jours, les regards étaient tournés vers la Chine et l'épidémie causée par un nouveau coronavirus. Ils étaient tournés aussi vers Israël, où le président Macron nous a offert une colère très chiraquienne contre les services de sécurité de l'État hébreu. Ils étaient tournés enfin vers Washington, où le procès de Trump se tenait sans lui au Sénat américain. Mais pendant ce temps, un homme puissant préparait son futur. Cet homme, c'est Vladimir Poutine. En milieu de semaine dernière, le premier ministre Dmitri Medvedev démissionnait et son gouvernement avec pour laisser la place au patron du fisc russe, Mikhail Mishustin. Une démission qui intervenait juste après le discours du président russe Vladimir Poutine sur la réforme de la Constitution, annonce qui a surpris la plupart des observateurs. Jean-Marie, Alain, cette réforme constitutionnelle voulue par Poutine semble affaiblir principalement la fonction présidentielle. Et vu d'ici, ça paraît surprenant pour un dirigeant plutôt autoritaire et disons-le quasi omnipotent. Comment affaiblit-il la fonction présidentielle, Alain, et surtout pourquoi le fait-il ?
Alors, il a fait ça à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union, de la Fédération de Russie, la semaine dernière. Il a 67 ans. Il en est à son quatrième mandat de président, d'abord deux mandats, de 2000 à 2008. Et puis là, il en est à son deuxième mandat consécutif, si je puis dire, qui termine en 2024.
Oui, juste pour rappeler qu'entre ces deux grades de mandat,
il a été Premier ministre.
Voilà, de Medvedev. Voilà.
Alors écoutez, pourquoi ? Eh bien parce que je crois qu'il veut préserver sa fonction, le rôle qu'il joue dans le système déjà. Il veut d'une certaine manière assurer la durabilité du poutinisme. Et puis il a, si vous voulez, cette question fondamentale qui est celle de tous les autocrates. Comment partir ? Alors en général, il y a trois portes de sortie, l'assassinat, la prison ou l'exil. Bon, il veut naturellement aucune de ces portes de sortie et donc il veut rester comme une sorte de super dirigeant un peu. On a beaucoup comparé, vous savez, avec ce secrétaire général du Parti communiste chinois, Deng Xiaoping, l'homme des réformes, qui, sans être président, sans même être le secrétaire général du Parti communiste, a continué à être l'inspirateur de la politique de réforme. Eh bien, il veut être ça, continuer à être l'inspirateur du poutinisme et s'assurer aussi une immunité totale sur le plan judiciaire et politique, que ce soit de poursuites qui peuvent aller contre lui à l'intérieur de la Russie, au cas où le régime évoluerait très différemment, ou que ce soit des poursuites étrangères auxquelles il pourrait être sujet, une fois qu'il n'est plus président, de la part par exemple des Pays-Bas, pour l'avion civil de la compagnie aérienne des Pays-Bas qui a été abattu par une batterie russe au-delà dans le Donbass en Ukraine il y a quelques années. Voilà, à mon avis, un ensemble de raisons qui fait qu'il veut un changement de la Constitution et préserver un rôle, le premier, on pourra en parler de ce rôle, dans le système russe.
Sur la protection dont il bénéficie, elle existe déjà puisqu'il y a une loi de 2001 en Russie qui lui garantit cette immunité. Vis-à-vis de l'extérieur, c'est différent. C'est pour ça que dans les dispositifs qu'il a fait adopter ou qu'il va faire adopter, il y a proclamé la supériorité des lois russes sur les lois internationales.
On y reviendra.
Sur les traités internationaux. C'était très exactement là qu'il cherche, par ce biais, qu'il cherche à se protéger de l'événement qu'a mentionné Alain. Le dispositif est assez intéressant vu de l'extérieur parce qu'on se dit, tiens, voilà une tentative intéressante. Il affaiblit les pouvoirs du président, en effet, pour renforcer ceux de la Douma. Et renforçant ceux de la Douma, il confie à la Douma le choix de décider du gouvernement.
La Douma, je le rappelle,
la
qui
Douma,
est
c'est
le Parlement russe.
La Chambre des députés. Et donc, il ferait dépendre le choix du gouvernement d'une éventuelle nouvelle majorité à la Douma, ce qui serait très nouveau, puisque pour le moment, la Douma est totalement sous contrôle du parti Russie Unie, qui est le parti de Vladimir Poutine. Simplement, et alors on peut se dire, très bien, on reconstitue les deux blocs habituels, un bloc, j'allais dire, économique et sociale, qui est la charge du gouvernement et des ministres, et un bloc régalien, qui est la charge du président, qui reste le chef des armées. Donc tout ça, à la limite, peut même, à la limite, presque ressembler un peu au système français de la Ve République. Sauf que il instaure aussi un Conseil d'État, qui est aussi un Conseil de sécurité, et qui va surplomber l'ensemble, et qui probablement sera l'instrument dont il va se saisir lui-même. Il y a nommé Medvedev comme vice-président, et les observateurs pensent que c'est à cela qu'il pense pour lui-même, parce que ça surplombera le système, et ça lui permettra de garder non pas une influence morale ou d'influence, j'allais dire, de vieux sage. Je pense pas que ce soit un homme à user de cela. En revanche, il gardera des leviers, un levier très fort sur l'ensemble du système. Et donc, quand on le regarde, on se dit, au fond, c'est une forme de synthèse. On disait de chez nous que De Gaulle était l'homme de la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. De Poutine, on peut dire qu'il est l'homme de la synthèse entre l'Ancien Régime et le soviétisme, entre le tsarisme et le soviétisme. Il a eu une période tsariste, ça c'est de remise en marche, de contrôle absolu, d'élimination des opposants, ainsi de suite, les opposants par parenthèse, pas seulement les opposants politiques, mais aussi les journalistes, dont il ne faut pas s'oublier qu'ils ont payé un très lourd tribut à l'installation et à la perpétuation de ce système. Et le modèle que je viens de décrire peut ressembler au soviétisme en ce sens que c'est la personne du comité central ou à l'intérieur du comité central, la petite équipe dirigeante qui décide en effet, alors que sur la façade, il y a un gouvernement, un président, ainsi de suite. Donc on peut dire cela de Vladimir Poutine ou en tout cas de ce qu'il a derrière la tête à travers cette réforme.
Donc en gros, c'est de se mettre à l'abri et de garder le pouvoir.
De garder des leviers qui lui permettent d'être en situation d'être maître des grandes orientations. Et puis de la synthèse permanente qu'il faut faire entre, d'un côté, les sphères de pouvoir officielles, mais aussi les oligarques, mais aussi les généraux, mais aussi le patron omnipotent de Gazprom ou bien des entreprises d'hydrocarbures qui sont les vraies puissances de la Russie. Il faut avoir constamment la capacité à faire la synthèse entre tous ces intérêts qui peuvent être divergents et à l'intérieur desquels il peut y avoir des luttes assez féroces.
Pourquoi ils s'entêtent à garder cette illusion de démocratie? On sait très bien que Vladimir Poutine n'est pas le plus grand des démocrates. Pourquoi il donne au monde et au peuple russe justement l'impression qu'il va essayer de faire marcher tout ça de manière démocratique alors qu'il aurait très bien pu manipuler la Constitution pour finalement rester au pouvoir à vie?
Justement ça, je crois que c'est très intéressant. C'est une sorte de tropisme européen. Il lui reste ça. Poutine, qui a cultivé toutes ses grandes théories sur l'euro-asiatisme, le tropisme asiatique de la Russie profonde, etc. En même temps, il ne va pas faire comme son homologue chinois, Xi Jinping, c'est-à-dire déclarer la possibilité d'être président à vie. Il veut garder ce vernis de démocratie, et je dirais que ça fait partie de l'image de la Russie. Il ne veut pas totalement appartenir à un monde ou à un type de gouvernance qui ressemble au Parti communiste chinois. En revanche, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Jean-Marie, il veut rester l'arbitre suprême dans le système qu'il a installé et qui est un système d'alliance changeante pour le pouvoir et pour l'argent entre les oligarques, les généraux, les chefs des services secrets, les gouverneurs locaux et les patrons du secteur énergétique. Et donc, il y a constamment une bataille, comme ça, un jeu de pouvoir entre ceux qui sont proches des services de sécurité, qui entourent Poutine, qu'on appelle les Siloviki, et puis il y a ceux qui seraient plutôt plus près des réformateurs. Et les gens de la sécurité qui l'entourent, qui tranche, qui décide. Les questions économiques et sociales viennent après, etc. Tous les mandats de Poutine ont été consacrés, quel que soit le niveau du baril de pétrole, ont été consacrés à l'obsession de redevenir une grande puissance, à celle-là, et à l'obsession d'assurer une manière de stabilité du pouvoir qu'il arrivait à assurer en étant l'arbitre de ces mini-puissances dont vient de parler Jean-Marie là, et que j'énumérais à la minute. Ce rôle-là, il veut le garder. Alors, il peut l'avoir en tant que Premier ministre, puisque la fonction du Premier ministre a été réévaluée. Il peut l'avoir en tant que président de l'Assemblée, de la Douma. Il peut l'avoir en tant que chef de la majorité parlementaire ou, plus probable, selon les gens qui sont les spécialistes des affaires du Kremlin, en étant le président, et là, il n'y a pas de mandat, ça peut être indéfini, en étant le président du Conseil d'État renouvelé, c'est une sorte d'organisme à laquelle personne n'a prêté attention jusqu'à présent, c'est un conseil de gouverneurs, d'élus régionaux, etc., et dont il veut réévaluer les pouvoirs, et il continuerait, en étant président de ce Conseil d'État, à assurer cette fonction d'arbitre.
Et ce qu'il emprunte en même temps au soviétisme, j'étais en train d'y penser, c'est la sélection des ministres. Il va puiser dans la technocratie. Et l'exemple du nouveau Premier ministre est patent. C'était le chef des impôts de l'administration fiscale qui est tout d'un coup propulsé comme Premier ministre avec un changement de gouvernement qui, je crois, a battu tous les records de rapidité dans ce que l'on peut observer. Ça s'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est un processus comme ça de sélection et de promotion par la technocratie, en tout cas dans les sphères gouvernementales, qu'il met en place et qui lui permet en même temps de renouveler les générations puis de s'appuyer sur des générations montantes par rapport à la période où il a commencé, qui commence à être déjà maintenant assez ancienne.
Vous parlez justement de la sélection des ministres et du gouvernement. Alain, ce Mikhaïl Mishoustin, vous le connaissiez, vous, avant qu'il soit nommé Premier ministre à la place de Medvedev ?
Non, je n'en ai jamais entendu parler, donc j'ai lu simplement qu'ils se sont connus parce que lui est un ancien très grand joueur de hockey sur glace. Vladimir Poutine aime le hockey sur glace. Il se fait d'ailleurs volontiers filmer au moins une fois par an en train de jouer au hockey avec cette sorte de carapace de cosmonaute sur la glace. Et c'est tout ce que je savais de lui. J'ai vu qu'il avait nommé 2 vice-premiers ministres qui étaient ses 2 collaborateurs à la tête du système fiscal du pays.
Manifestement, la mission est de remettre un peu l'accent sur l'économie, parce qu'il y a, dans la période récente, quand même beaucoup de problèmes économiques, et surtout lui aussi la réforme des retraites, qui a consisté à décaler l'âge de la retraite, et qui a provoqué quand même un vrai mécontentement dans l'opinion, mécontentement que Vladimir Poutine a intelligemment détourné vers le Premier ministre, Medvedev. Et quand on regarde les cotes de popularité, on s'aperçoit que Poutine doit être toujours à quelque chose comme 2/3 des Russes qui sont contents de lui et qui l'approuvent, alors que la cote de Medvedev était tombée à 1/3, ou moins d'un tiers. Donc on voit bien là qu'il y a matière à rassurer l'opinion et à reprendre en main un destin économique qui, quand même, n'était pas très brillant dans la période récente.
Mishoustin, on va le voir quelque temps, il fait une transition ou il va s'installer durablement, vous pensez, dans le paysage politique russe ?
Alors là, écoutez, je ne me prononcerai pas parce que Poutine est un très bon joueur de poker, parce que le système est très opaque déjà, et pas aussi opaque peut-être que celui de l'Union soviétique, encore qu'on peut se poser la question.
Encore que c'est un système qui avait été assez largement décrit et investigué, si j'ose dire, par les kremlinologues.
Oui, voilà.
Qui arrivait à des résultats auxquels personne n'arrive en Chine, par ailleurs, aujourd'hui. Hein, mais en Russie, la Russie soviétique avait fini par livrer un petit peu de ses secrets de l'intérieur du gouvernement.
Donc là, on n'a aucune visibilité sur la personne qui pourra succéder à Poutine. C'est parce que Medvedev étant en difficulté sur les
sondages. Je crois que le système est fait pour ça. Il n'y en a pas. Je crois que ça lui permet justement de ne pas désigner de successeur. On voit qu'il aurait pu carrément éloigner, marginaliser Medvedev, qui a vraiment une réputation de corruption terrible. Il va y avoir des élections législative en 2021. Il ne voulait pas que ce soit Medvedev qui conduise ces élections. La popularité de Russie Unie s'est effondrée. Elle s'est effondrée.
La Russie Unie qui est le parti présidentiel.
Le parti de Poutine, voilà. Elle s'est effondrée à tel point que le Kremlin a demandé à l'organisme relativement indépendant qui fait les sondages de changer de méthodologie parce que ce résultat ne leur plaisait pas. À la suite de la hausse de la TVA, à la suite de la volonté de Poutine d'augmenter l'âge auquel on peut partir à la retraite, etc., etc. Donc, il faut pas oublier non plus que l'économie russe, la vie des Russes, 170 ou 180 millions de Russes, dépend du baril de pétrole. En ce sens, Poutine n'a pas réussi la transition économique qu'il avait promise. Il faut pas oublier que ce pays, qui est une grande puissance militaire, qui est le plus grand pays du monde, etc., a un produit national brut, un produit intérieur brut, inférieur à celui de l'Italie, non ?
À celui de l'Espagne.
À celui de l'Espagne.
Donc c'est quand même le plus
grand
paradoxe.
Donc le niveau de vie, pays de grande inégalité, très fortes inégalités, et le niveau de vie moyen, ces 5 dernières années, a diminué.
suivant en ça la courbe du baril du pétrole. Et Poutine a été très populaire au début de son premier mandat lorsqu'il avait un baril à $80. Ce n'est plus le cas.
Ouais. À quoi il faut ajouter la démographie qui est plus que chancelante et qui fait que la Russie perd chaque année des habitants et qu'elle va glisser vers une taille moyenne dans quelque temps, qui contraste avec l'idée de la puissance stratégique que l'on peut avoir de Vladimir Poutine quand on le regarde sur les théâtres d'opérations extérieures. Et alors, pour revenir à la question centrale que vous aviez posée, qui peut lui succéder? Comment organise-t-il et à qui pense-t-il pour sa propre succession? La réponse des observateurs sur place, c'est de dire à lui-même. Et ça, ça me paraît assez lumineux et assez clair.
Il a 67 ans, hein, je ne sais pas si on l'a dit dans l'émission, il a 67 ans.
Il y a un changement qui est intéressant, c'est-à-dire que la réforme va limiter désormais le nombre de mandats présidentiels à 2. Avant, c'était à 2 consécutifs. Et certains observateurs se disent que c'est peut-être aussi une manière de remettre à zéro ce décompte des mandats pour qu'il puisse se représenter après la fin de son mandat 2024. Les opinions sont assez partagées.
Moi, je pense qu'il se prendra plutôt de la hauteur et que le Conseil d'État est vraiment quelque chose qui est dessiné pour lui et dans le futur système. Vu de l'extérieur comme cela, mais je ne suis pas un spécialiste.
Je voudrais revenir sur la Douma qui va prendre plus d'importance dans la future constitution russe. Cette Douma qui pour l'instant est sous le contrôle de Russie Unie, le parti présidentiel, mais vous avez dit que la Russie Unie est en train de s'éroder dans les sondages et perdait de son influence. Qui peut s'opposer à Russie Unie et qui peut éventuellement s'imposer à la Douma en face du parti présidentiel?
Oui, Russie Unie a même perdu des sièges aux élections régionales, à de récentes élections régionales. Écoutez, il y a un ensemble de partis qui, soi-disant, représentent l'opposition à la Douma. Il y a encore des réformateurs, je crois, le parti Yabloko, avec souvent beaucoup de gens qui ont occupé des fonctions importantes du temps de Boris Yeltsin ou de la Perestroïka, dirigée par ces gens-là, mais qui est largement minoritaire. Il y a des ultranationalistes, il y a des communistes, mais ni cela, les ultranationalistes, ni les communistes, c'est une opposition de façade. Je veux dire, ils suivront Poutine.
Il faut rappeler que le principal opposant s'appelle Navalny, qu'à chaque événement, à chaque manifestation, à chaque protestation, il est emprisonné, pour un temps limité, mais il est emprisonné, et que aux dernières élections municipales, notamment à Moscou, les candidats d'opposition ont été, de vraies oppositions, ont été interdits de se présenter par une décision de justice. Donc, il n'y a pas d'opposition autre que ceux qui se disent dans l'opposition tout en étant pro-Poutine. Donc, c'est très difficile de voir ce que pourraient donner des élections législatives si elles se déroulaient dans des conditions normales, avec des partis qui puissent s'exprimer, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment le cas. Même si on se souvient qu'en 2011, je crois, et 2012, il y avait eu des manifestations importantes qui montraient quand même la montée du mécontentement. Mais ça ne peut pas avoir, à ce stade, de débouché politique, faute pour les opposants de pouvoir se structurer ou s'exprimer en dehors des cellules qu'on leur destine quand il y a des événements importants.
Ce qu'on a beaucoup dit sur cette question-là, de pourquoi il tient absolument à interdire toute opposition. Bah, d'abord, c'est parce qu'il en a peur. Il n'est pas si sûr de lui que ça. Et ensuite, les sondeurs eux-mêmes disent... La plupart de ses mandats, il a été populaire. Il ne faut pas oublier ça, il faut le dire aussi. Dans la plupart de ses mandats, il a été populaire, Vladimir Poutine. Sa popularité, maintenant, tombe. Mais il a été populaire. S'il y avait eu des élections libres, il aurait sans doute été élu. Mais il n'aurait pas été élu avec 76% des voix, comme il a eu récemment. Il aurait été élu avec 50% des voix, ou etc. Mais il a peur de l'opposition, puisqu'il interdit l'expression de l'opposition.
Cette constitution, d'ailleurs, je le rappelle, est soumise à référendum auprès du peuple russe. On imagine qu'elle va être validée haut la main par l'électorat. Je voulais aussi, sur cette constitution, rappeler un point. Elle entérine la fin de la primauté du droit international sur la constitution russe. Donc, on a compris que c'était pour éviter à Vladimir Poutine des poursuites éventuelles. Ouais. Mais est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur les traités internationaux et les relations avec les autres pays?
C'est un alignement de la Russie sur l'attitude américaine d'aujourd'hui qui consiste à reculer sur tous les fronts multilatéraux et pour leur préférer le bilatéralisme. Et vraisemblablement, c'est une mauvaise nouvelle sur le plan international parce que justement ce qui faisait la force des systèmes de sécurité dont nous profitons encore, c'était justement leur côté multilatéral dans lequel était impliquée la Russie. Si cet échelon-là disparaît, ce qui est le cas de la part des États-Unis sur beaucoup de plans, évidemment, le monde sera un peu plus insécure.
Pour finir, une dernière question. Ces derniers mois, Emmanuel Macron s'est largement rapproché du Kremlin et de Poutine en particulier. Est-ce que c'est un rapprochement qui a porté ses fruits,
C'est difficile de l'évaluer aujourd'hui. Il y a deux camps en France. Il y a un camp qui systématiquement considère Poutine comme un tyran et un ennemi de l'Europe. Et puis, il y a un camp qui, au contraire, regarde de façon énamourée presque du côté de Moscou parce que Poutine incarne une forme de pouvoir qui les séduit. Et du coup, fleurissent les idées sur le thème... Il faut se rapprocher de la Russie. C'est une idée chère à Nicolas Sarkozy et qu'a adopté Emmanuel Macron. Il y a aussi une thèse qui a été achetée par les dirigeants français actuels qui consiste à dire « Oh là là, il faut absolument empêcher une alliance stratégique entre la Russie et la Chine parce que nous serions, nous, Européens, à ce moment-là, complètement isolés. » C'est oublier qu'il y a des milliers et des milliers de kilomètres de frontières communes entre la Russie et la Chine et que la Russie et la Chine sont obligées, sauf à se faire la guerre, sont obligées de s'entendre et de passer des accords stratégiques. Et que ça ne signifie pas pour autant que Poutine voit un destin asiatique pour la Russie. Cela dit, est-ce que Emmanuel Macron est gagnant dans cette affaire? Pour le moment, non, parce que, d'une part, Vladimir Poutine n'a rien abandonné de ses objectifs stratégiques, qui sont, à terme, de défaire l'Union européenne, puisqu'il porte le fer partout où il y avait le rideau de fer, c'est-à-dire partout où il y avait une influence soviétique. Il essaie de reconstituer, l'a-t-on suffisamment souligné à maintes reprises, ce qui constituait avant le glacis de l'Union soviétique, d'où la politique d'alliance stratégique avec, recherchée avec la Hongrie, par exemple, d'où la crainte des pays baltes aujourd'hui de voir se répéter un scénario à la ukrainienne, qui sont des possibilités, non pas des certitudes, mais des possibilités, avec un Poutine, encore une fois, qui regarde l'Union européenne comme quelque chose de négatif et donc qu'il veut affaiblir. Et puis, par ailleurs, je suis frappé du fait que dans la période récente, on s'est beaucoup inquiété, à juste titre, de manifestations anti-françaises dans un certain nombre de pays d'Afrique noire, et que ces manifestations anti-françaises, manifestement, sont téléguidées, d'après les observateurs, par des mercenaires russes. Et donc les Russes sont ouvertement hostiles à l'armée française, ouais, et à sa présence dans des pays où l'armée française est venue au secours d'un certain nombre de pays contre les djihadistes. Donc c'est un jeu assez pervers que joue Poutine vis-à-vis de la France, et à ce stade, on peut accepter l'idée qu'il faille parler avec la Russie, nouer des partenariats, ne pas négliger le bénéfice économique qu'on peut avoir de ces partenariats, mais on peut aussi observer que Poutine, de ce point de vue-là, ne renonce à rien de ses propres objectifs, y compris en contrariant les nôtres.
Non, moi, je ne reprendrai pas cette formule que vous avez utilisée, Christophe. Macron ne s'est pas largement ouvert à la Russie, parce que si on regarde les points clés que ça voudrait dire, Macron, au contraire, a défendu sans arrêt l'OTAN, a défendu la question sur les pays baltes, n'est pas d'accord avec les Russes sur l'Ukraine, n'est pas d'accord avec les Russes au Moyen-Orient sur la Syrie, n'est pas d'accord sur le rôle qu'ils ont pu jouer aussi, bien que la France ait eu un rôle ambigu en Libye, etc., etc. Qu'un président français dise qu'il nous faut un dialogue et des partenariats avec la Russie, ça me paraît tout à fait normal, mais on peut pas dire que la France ait fait une large ouverture à l'adresse de la Russie, parce que elle l'aurait fait sur quel thème et dans quel domaine des conflits que nous avons en ce moment avec la Russie. Franchement, c'était peut-être une tentative pour que Poutine ait une attitude plus conciliante à l'égard des deux conflits que nous avons en Europe avec lui. De ce point de vue-là, ça n'a pas eu lieu, puisqu'il n'a pas changé. Et donc, si vous voulez, s'il y a eu une ouverture française, elle est restée purement rhétorique, de l'ordre de celle qui a été celle de François Hollande, son prédécesseur, lorsqu'il a participé et instauré ce dialogue franco-allemand avec les Ukrainiens et avec les Russes, qui est d'ailleurs le seul forum dans lequel on pourrait régler cette question et qu'a repris Macron. Il n'a pas été plus loin que François Hollande. Pas plus d'ailleurs que
Nicolas
Sarkozy.
Il a été plus loin dans la mise en scène. La mise en scène
avec Versailles, par
plus
exemple.
Plus spectaculaire, scène, à ouais. cause de Versailles, à cause du fait de scénariser les rencontres.
C'est juste
Poutine.
Fort, quand même, en début de mandat, en l'invitant à Versailles, qui montrait quand même une certaine ouverture vers
oui,
Moscou.
Oui, je suis tout à fait. Non, d'accord. Mais si vous voulez, ça n'a pas entraîné de changement dans les grandes orientations de la diplomatie française.
Merci messieurs pour ces commentaires analyses.
Merci Christophe.
Merci Christophe.
Sur le futur de Vladimir Poutine, en particulier de la Russie en général.
Radieux de Vladimir Poutine. Mais ce qu'il faut dire aussi peut-être Christophe pour terminer, c'est que voilà une réforme qui sur le papier est bâtie pour faire perdurer Poutine et le poutinisme. Donc on veut réformer le système et l'améliorer de l'intérieur. Rappelez-vous la perestroïka. La perestroïka s'est lancée par des gens qui se disent c'est la seule façon de sauver le système. Qu'advient-il de la perestroïka ? L'effondrement du système. Et donc, soyons prudents.
On restera sur ce conseil de prudence. Merci Alain, merci Jean-Marie, à la semaine prochaine dans Le Monde Devant Soi. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.